Sans famille, première partie, chapitre 3, la troupe du seigneur Vitalis. Sans doute je dormis toute la nuit sous l'impression du chagrin et de la crainte, car le lendemain matin, en m'éveillant, mon premier mouvement fut de tâter mon lit et de regarder autour de moi pour être certain qu'on ne m'avait pas emporté. Pendant toute la matinée, Barberin ne me dit rien, et je commençais à croire que le projet de m'envoyer à l'hospice était abandonné. Sans doute Mère Barberin avait parlé, elle l'avait décidé à me garder. Mais, comme midi sonnait, Barberin me dit de mettre ma casquette et de le suivre. Effrayé, je tournai les yeux vers Mère Barberin pour implorer son secours, mais à la dérobée, elle me fit un signe qui disait que je devais obéir. En même temps, un mouvement de sa main me rassura. Il n'y avait rien à craindre. Alors, sans répliquer, je me mis en route derrière Barberin. La distance est longue de notre maison au village. Il y en a bien pour une heure de marche. Cette heure s'écoula sans qu'il m'adressât une seule fois la parole. Il marchait devant, doucement, en clopinant, sans que sa tête fît un seul mouvement. Et de temps en temps, il se retournait tout d'une pièce pour voir si je le suivais. Comme nous passions devant le café, un homme qui se trouvait sur le seuil appela Barberin et l'engagea à entrer. Celui-ci, me prenant par l'oreille, me fit passer devant lui, et quand nous fûmes entrés, il referma la porte. Tandis que Barberin se plaçait à une table avec le maître du café, qui l'avait engagé à entrer, j'allais m'asseoir près de la cheminée et regardais autour de moi. Dans le coin opposé à celui que j'occupais, se trouvait un grand vieillard à barbe blanche qui portait un costume bizarre et tel que je n'en avais jamais vu. Sur ses cheveux, qui tombaient en longues mèches sur ses épaules, était posé un haut chapeau de feutre gris orné de plumes vertes et rouges. Une peau de mouton, dont la laine était en dedans, le serrait à la taille. Cette peau n'avait pas de manches et par deux trous ouverts aux épaules sortaient les bras vêtus d'une étoffe de velours qui autrefois avait dû être bleu. Il se tenait allongé sur sa chaise, le menton appuyé dans sa main droite. Son coude reposait sur son genou ployé. Jamais je n'avais vu une personne vivante dans une attitude si calme. Il ressemblait à l'un des saints en bois de notre église. Auprès de lui, trois chiens, tassés sous sa chaise, se chauffaient sans remuer. Un caniche blanc, un barbet noir et une petite chienne grise à la mine futée et douce. Le caniche était coiffé d'un vieux bonnet de police, retenu sous son menton par une lanière de cuir. Pendant que je regardais le vieillard avec une curiosité étonnée, Barberin et le maître du café causaient à demi-voix, et j'entendais qu'il était question de moi. Barberin racontait qu'il était venu au village pour me conduire au maire, afin que celui-ci demandât aux hospices de lui payer une pension pour me garder. C'était donc là ce que Mère Barberin avait pu obtenir de son mari, et je compris tout de suite que si Barberin trouvait avantage à me garder près de lui, je n'avais plus rien à craindre. Le vieillard, sans en avoir l'air, écoutait aussi ce qui se disait. Tout d'un coup, il étendit la main droite vers moi et s'adressant à Barberin, « C'est cet enfant qui vous gêne ?» dit-il avec un accent étranger. « Lui-même. » Et vous croyez que l'administration des hospices de votre département va vous payer des mois de nourrice? Dame, puisqu'il n'a pas de parents et qu'il est à ma charge, il faut bien que quelqu'un paie pour lui. C'est juste, il me semble. Je ne dis pas non, mais croyez-vous que tout ce qui est juste peut toujours se faire? Ah, pour ça, non. Eh bien, je crois bien que vous n'obtiendrez jamais la pension que vous demandez. Alors il ira à l'hospice. Il n'y a pas de loi qui me force à le garder dans ma maison si je n'en veux pas. Vous avez consenti autrefois à le recevoir. C'était prendre l'engagement de le garder. Eh bien, je ne le garderai pas. Et quand je devrais le mettre dans la rue, je m'en débarrasserai. Il y aurait peut-être un moyen de vous en débarrasser tout de suite, dit le vieillard après un moment de réflexion. Et même de gagner à cela quelque chose. Si vous me donnez ce moyen-là, je vous paye une bouteille, et de bon cœur encore. Commandez la bouteille et votre affaire est faite. Sûrement, sûrement. Le vieillard, quittant sa chaise, vint s'asseoir vis-à-vis de Barberin. Chose étrange, au moment où il se leva, sa peau de mouton fut soulevée par un mouvement que je ne m'expliquais pas. C'était à croire qu'il avait un chien dans le bras gauche. Qu'allait-il dire? Qu'allait-il se passer? Je l'avais suivi des yeux avec une émotion cruelle. « Ce que vous voulez, n'est-ce pas ? » dit-il, « c'est que cet enfant ne mange pas plus longtemps votre pain, ou bien s'il continue à le manger, c'est qu'on vous le paie. »« Juste, parce que... »« Oh, le motif, vous savez, ça ne me regarde pas. Je n'ai donc pas besoin de le connaître. Il me suffit de savoir que vous ne voulez plus de l'enfant. S'il en est ainsi, donnez-le-moi. Je m'en charge. »« Vous le donnez ?» Eh, dame, ne voulez-vous pas vous en débarrasser? Vous donnez un enfant comme celui-là, un si bel enfant, car il est bel enfant, regardez-le. Je l'ai regardé. Rémi, viens ici. Je m'approchai de la table en tremblant. Allons, n'aie pas peur, petit, dit le vieillard. Regardez, continua Barberin. Je ne dis pas que c'est un vilain enfant. Si c'était un vilain enfant, je n'en voudrais pas. Les monstres, ce n'est pas mon affaire. Il est bon pour travailler. Il est bien faible. Lui, faible ? Allons donc ! Il est fort comme un homme, et solide, et sain. Tenez, voyez ses jambes. En avez-vous jamais vu de plus droite ? Barberin releva mon pantalon. Trop mince, dit le vieillard. Et ses bras ? Continua Barberin. Les bras sont comme les jambes. Ça peut aller, mais ça ne résisterait pas à la fatigue et à la misère. Lui, ne pas résister ? Mais tâtez donc, voyez, tâtez vous-même. Le vieillard passa sa main décharnée sur mes jambes en les palpant, secouant la tête et faisant la moue. J'avais déjà assisté à une scène semblable quand le marchand était venu pour acheter notre vache. Lui aussi l'avait tâtée et palpée. Lui aussi avait secoué la tête et fait la moue. Ce n'était pas une bonne vache. Il lui serait impossible de la revendre. Et cependant, il l'avait achetée, puis emmenée. Le vieillard, allait-il m'acheter et m'emmener ? Oh, mère Barberin, mère Barberin ! Malheureusement, elle n'était pas là pour me défendre. « Enfin, dit le vieillard, tel qu'il est, je le prends. Seulement, bien entendu, je ne vous l'achète pas. Je vous le loue. Je vous en donne 20 francs par an. »« 20 francs ? C'est un bon prix et je paie d'avance. Vous touchez 4 belles pièces de 100 sous et vous êtes débarrassé de l'enfant. » Il fouilla dans sa poche et en tira une bourse de cuir dans laquelle il prit 4 pièces d'argent qu'il étala sur la table en les faisant sonner. « Pensez donc, s'écria Barberin, que cet enfant aura des parents un jour ou l'autre. Qu'importe. Il y aura du profit pour ceux qui l'auront élevé. Si je n'avais pas compté là-dessus, je ne m'en serais jamais chargé. » Ce mot de Barberin, « si je n'avais pas compté sur ses parents », « je ne me serais jamais chargé de lui », me fit le détester un peu plus encore. Quel méchant homme ! Et c'est parce que vous ne comptez plus sur ses parents, dit le vieillard, que vous le mettez à la porte. Enfin, à qui s'adresseront-ils ses parents si jamais ils paraissaient ? À vous, n'est-ce pas ? Et non à moi qu'ils ne connaissent pas. Et si c'est vous qui les retrouvez ? Alors, convenons que s'il y a des parents un jour, nous partagerons le profit et je mets 30 francs. Mettez-en 40. Non, pour les services qu'il me rendra, ce n'est pas possible. Et quels services voulez-vous qu'il vous rende ? Pour de bonnes jambes, il a de bonnes jambes. Pour de bons bras, il a de bons bras. Je m'en tiens à ce que j'ai dit, mais enfin, à quoi le trouvez-vous propre ? Le vieillard regarda Barberin d'un air narquois et vidant son verre à petits coups. « À me tenir compagnie, dit-il. Je me fais vieux et le soir, quelquefois, après une journée de fatigue, quand le temps est mauvais, j'ai des idées tristes. Il me distraira. Il est sûr que pour cela, les jambes seront assez solides. Mais pas trop, car il faudra danser, et puis sauter, et puis marcher, et puis après avoir marché, sauté encore. Enfin, il prendra place dans la troupe du seigneur Vitalis. Et où est-elle, votre troupe ? Le seigneur Vitalis, c'est moi, comme vous devez vous en douter. La troupe, je vais vous la montrer, puisque vous désirez faire sa connaissance. Disant cela, il ouvrit sa peau de mouton et prit dans sa main un animal étrange qu'il tenait sous son bras gauche, serré contre sa poitrine. Je ne trouvais pas de nom à donner à cette créature bizarre que je voyais pour la première fois et que je regardais avec stupéfaction. Elle était vêtue d'une blouse rouge bordée d'un galon doré, mais les bras et les jambes étaient nus, car c'était bien des bras et des jambes qu'elle avait, et non des pattes. Seulement ses bras et ses jambes étaient couverts d'une peau noire et non blanche ou camée. « Oh, le vilain singe !» s'écria Barberin. Ce mot me tira de ma stupéfaction, car si je n'avais jamais vu des singes, j'en avais au moins entendu parler. Ce n'était donc pas un enfant noir que j'avais devant moi, c'était un singe. « Voici le premier sujet de ma troupe, » dit Vitalis. « C'est Monsieur Jolicoeur. Jolicoeur, mon ami, saluez la société. » Jolicoeur porta sa main fermée à ses lèvres et nous envoya à tous un baiser. « Maintenant, » continua Vitalis, étendant sa main vers le caniche blanc, « à un autre. Le seigneur Capi va avoir l'honneur de présenter ses amis à l'estimable société ici présente. » À ce commandement, le caniche, qui jusque-là n'avait pas fait le plus petit mouvement, se leva vivement et se dressant sur ses pattes de derrière, il croisa ses deux pattes de devant sur sa poitrine, puis il salua son maître si bas que son bonnet de police toucha le sol. Ce devoir de politesse accompli, il se tourna vers ses camarades, et d'une patte, tandis qu'il tenait toujours l'autre sur sa poitrine, il leur fit signe d'approcher. Les deux chiens, qui avaient les yeux attachés sur leurs camarades, se dressèrent aussitôt, et se donnant chacun une patte devant, comme on se donne la main dans le monde, ils firent gravement 6 pas en avant, puis après 3 pas en arrière, et saluèrent la société. « Celui que j'appelle Capi, » continua Vitalis, autrement dit « Capitano » en italien, est le chef des chiens. C'est lui qui, comme le plus intelligent, transmet mes ordres. Ce jeune élégant à poils noirs est le seigneur Zerbino, ce qui signifie « le galant », nom qu'il mérite à tous les égards. Quant à cette jeune personne à l'air modeste, c'est la signora Dolce, une charmante Anglaise qui n'a pas volé son nom de douce. C'est avec ces sujets remarquables, à des titres différents, que j'ai l'avantage de parcourir le monde en gagnant ma vie plus ou moins bien, suivant les hasards de la bonne ou de la mauvaise fortune. Capi ! Le caniche croisa ses pattes. Capi, venez ici, mon ami, et soyez assez aimable, je vous prie. Ce sont des personnages bien élevés à qui je parle toujours poliment. Soyez assez aimable pour dire à ce jeune garçon qui vous regarde avec des yeux ronds comme des billes, quelle heure il est ? Capi décroisa les pattes, s'approcha de son maître, écarta la peau de mouton, fouilla dans la poche du gilet, en tira une grosse montre en argent, regarda le cadran et jappa 2 fois distinctement. Puis, après ces 2 jappements bien accentués, d'une voix forte et nette, il en poussa 3 autres plus faibles. Il était en effet 2h15. « C'est bien !» dit Vitalis. « Je vous remercie, signor Capi. Et maintenant, je vous prie d'inviter la signora Dolce à nous faire le plaisir de danser un peu à la corde. » Capi fouilla aussitôt dans la poche de la veste de son maître et en tira une corde. Il fit signe à Zerbino et celui-ci alla vivement lui faire vis-à-vis. Alors Capi lui jeta un bout de la corde et tous deux se mirent gravement à la faire tourner. Quand le mouvement fut régulier, Dolce s'élança dans le cercle et sauta légèrement en tenant ses beaux yeux tendres sur les yeux de son maître. « Vous voyez ?» dit celui-ci. « que mes élèves sont intelligents, mais l'intelligence ne s'apprécie à toute sa valeur que par la comparaison. Il fera le rôle d'une bête et l'esprit de mes élèves n'en sera que mieux apprécié. Oh, pour faire la bête, interrompit Barberin. Il faut avoir de l'esprit, continua Vitalis. Et je crois que ce garçon n'en manquera pas quand il aura appris quelques leçons. Au reste, nous verrons bien. Et pour commencer, nous allons en avoir tout de suite une preuve. S'il est intelligent, il comprendra qu'avec le seigneur Vitalis, on a la chance de se promener, de parcourir la France et 10 autres pays, de mener une vie libre au lieu de rester derrière des bœufs à marcher tous les jours dans le même champ du matin au soir. Tandis que s'il n'est pas intelligent, il pleurera, il criera. Et comme le seigneur Vitalis n'aime pas les enfants méchants, il ne l'emmènera pas avec lui. Alors l'enfant méchant ira à l'hospice, où il faut travailler dur et manger peu. J'étais assez intelligente pour comprendre ces paroles. Mais de la compréhension à l'exécution, il y avait une terrible distance à franchir. Assurément, les élèves du seigneur Vitalis étaient bien drôles, bien amusants. Et ce devait être bien amusant aussi de se promener toujours. Mais pour les suivre et se promener avec eux, il fallait quitter Mère Barberin. Il est vrai que si je refusais, je ne resterais peut-être pas avec Mère Barberin. On m'enverrait à l'hospice. Comme je demeurais troublée, les larmes dans les yeux, Vitalis me frappa doucement du bout de son doigt sur la joue. « Allons, dit-il, l'enfant comprend puisqu'il ne crie pas. La raison entrera dans cette petite tête. Et demain ?»« Oh, monsieur, m'écriai-je, laissez-moi, maman Barberin, je vous en prie. » Mais avant d'en avoir dit davantage, je fus interrompu par un formidable aboiement de Capi. En même temps, le chien s'élança vers la table sur laquelle Jolicoeur était resté assis. Celui-ci, profitant d'un moment où tout le monde était tourné vers moi, avait doucement pris le verre de son maître qui était plein de vin et il était en train de le vider. Mais Capi, qui faisait bonne garde, avait vu cette friponnerie du singe et en fidèle serviteur qu'il était, il avait voulu l'empêcher. « Monsieur Jolicoeur, dit Vitalis d'une voix sévère, vous êtes un gourmand et un fripon. Allez vous mettre là-bas dans le coin, le nez tourné contre la muraille. Et vous, Zerbino, montez la garde devant lui. S'il bouge, donnez-lui une bonne claque. Quant à vous, monsieur Capi, vous êtes un bon chien. Tendez-moi la patte que je vous la serre. » Tandis que le singe obéissait en poussant des petits cris étouffés, le chien, heureux, fier, tendait la patte à son maître. « Maintenant, continua Vitalis, revenons à nos affaires. Je vous donne donc 30 francs. »« Non, 40. » Une discussion s'engagea, mais bientôt Vitalis l'interrompit. « Cet enfant doit s'ennuyer ici, dit-il. Qu'il aille donc se promener dans la cour de l'auberge et s'amuser. » En même temps, il fit un signe à Barberin. « Oui, c'est cela, dit celui-ci. Va dans la cour, mais n'en bouge pas avant que je t'appelle, ou sinon je me fâche. » Je n'avais qu'à obéir, ce que je fis. J'allais donc dans la cour, mais je n'avais pas le cœur à m'amuser. Je m'assis sur une pierre et restai à réfléchir. C'était mon sort qui se décidait en ce moment même. Quel allait-il être? Le froid et l'angoisse me faisaient grelotter. La discussion entre Vitalis et Barberin dura longtemps, car il s'écoula plus d'une heure avant que celui-ci vînt dans la cour. Enfin, je le vis paraître. Il était seul. Venait-il me chercher pour me remettre aux mains de Vitalis? « Allons, me dit-il, en route pour la maison. » « La maison? Je ne quitterai donc pas Mère Barberin? J'aurais voulu l'interroger, mais je n'osais pas, car il paraissait de fort mauvaise humeur. » La route se fit silencieusement, mais environ 10 minutes avant d'arriver, Barberin, qui marchait devant, s'arrêta. « Tu sais, me dit-il, en me prenant rudement par l'oreille, que si tu racontes un seul mot de ce que tu as entendu aujourd'hui, tu le paieras cher. Ainsi, attention !»